comme chaque vendredi, on vous propose un essai qui a marqué l'histoire de la pensée économique. Aujourd'hui, direction les États-Unis avec Claudia Goldin, l'autrice de Comprendre l'écart entre les sexes, une histoire économique des femmes américaines. Et c'est Dominique Meurs qui est venu nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, professeur à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense, chercheuse au laboratoire Economics et directrice exécutive de la chaire Travail à la Paris School of Economics. Alors l'essai de Claudia Goldin, Comprendre l'écart entre les sexes, a été publié en 1990 et retrace près de 200 ans d'inégalité au travail entre les hommes et les femmes aux États-Unis. Comment Claudia Goldin, qui est aujourd'hui professeure d'économie à Harvard, en est-elle venue à s'emparer de ce sujet, Dominique Meurs?
Alors c'est un sujet qui l'a saisi très tôt, après sa thèse. Donc c'est une économiste classique, une historienne de l'économie, l'histoire économique, formée à Cornell, ensuite à l'école de Chicago, en compagnie de Baker. Donc le cadre qu'elle utilise est un cadre extrêmement standard, néoclassique. Mais néanmoins, ce qui va l'intéresser, c'est de regarder ce qui s'est passé du côté du taux de participation des femmes sur longue période. Et cet ouvrage reprend en fait différents travaux qu'elle a poursuivis dans les années 70 et 80.
Taux de participation au monde du travail.
Taux de participation au travail salarié. Et c'est là, en regardant, en plongeant dans les archives nationales, en regardant les statistiques, qu'elle s'est aperçue qu'il y avait un manque, c'est-à-dire qu'on ne savait rien sur les femmes mariées avec enfants. C'était un trou dans les statistiques, puisqu'elle ne participait pas au marché du travail. Et donc ça l'a amenée à s'intéresser vraiment à la question de la participation des femmes au marché du travail, aux conditions de la participation de ces femmes. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que par ce biais d'introduire les femmes sur le marché du travail, elle a secoué l'économie du travail. On est sorti des schémas standards, on était en train d'en sortir, mais elle a vraiment bousculé là-dessus, des schémas standards ou avec l'homo economicus. En lui donnant un sexe, on a changé les choses. C'est-à-dire que, du coup, il fallait tenir compte des institutions, des normes sociales, de l'histoire familiale, etc. Donc, ça a donné de la chair à ce qui se passe sur le marché du travail, à mieux comprendre ces tensions entre les institutions, les normes sociales et les demandes du point de vue économique. Toute son œuvre va être sous cet angle-là de comprendre ce qui se passe.
Alors ce que montre Claudia Goldin dans son essai, c'est qu'il y a eu de grandes vagues d'augmentation du nombre de femmes dans le monde du travail et non pas une progression constante comme ce que l'on pourrait imaginer.
Effectivement. Alors dans son œuvre, en fait, il y a trois grandes périodes. Sa première œuvre, celle qui est citée l'ouvrage, c'est la question de ce qui s'est passé dans les années 1920-1930, donc la Grande Dépression aux États-Unis, alors que les femmes avaient commencé à conquérir une place sur le marché du travail dans les emplois qualifiés. Donc il était maintenant de plus en plus admis socialement que les femmes mariées travaillent. Mais avec la Grande Dépression, il y a eu un retour pour les renvoyer au foyer. Donc la priorité aux hommes sur le marché du travail. Et là-dessus, il y avait une institution dans le monde anglo-saxon, particulièrement aux États-Unis, qui était une discrimination légale. Il était tout à fait possible de refuser d'embaucher une femme parce qu'elle était mariée ou de la licencier après son mariage.
Ce qu'on appelait les marriage bars.
Exactement. Et donc ça concernait énormément les institutrices, mais aussi du personnel qualifié pour des travaux administratifs.
Et alors c'est intéressant parce qu'effectivement, les femmes étaient ainsi forcées de quitter leur travail une fois mariées et ne pouvaient pas travailler après leur mariage. Et c'est une législation qui va durer un certain temps.
Ah ben oui, parce que ça va s'éteindre très progressivement dans les années 40-50. Alors ça ne concerne pas seulement les États-Unis, ça concerne aussi le monde anglo-saxon, l'Angleterre, l'Irlande, pendant très longtemps. Mais donc, pour revenir sur les États-Unis, ça va s'éteindre dans les années 50 parce qu'au sortir de la guerre, il y avait énormément besoin de personnel qualifié. Et donc, cette règle institutionnelle a cédé sous le coup des besoins en termes de main-d'œuvre.
Il y a en particulier une très forte demande à partir des années 30 d'employés de bureaux et en même temps une plus grande éducation des femmes qui vont de plus en plus au lycée.
Alors, il y a ça, mais alors ça, c'est un petit peu plus, si vous me permettez, l'histoire de l'éducation, ça va commencer là, mais elle va surtout prendre un tournant dans les années 60-70. Et ça, c'est le deuxième article qui n'est pas dans son livre, mais le deuxième article fondateur de Claudia Goldin, ce qu'elle a appelé la révolution tranquille. Et donc, ce qu'elle met en lumière, c'est que le fait qu'il y ait la pilule, les méthodes contraceptives, donc quelque chose qui se situe en dehors du jeu économique, hein, c'est une innovation fondamentale, médicale, va complètement changer la donne sur le marché du travail entre les femmes et les hommes. Premièrement, maîtriser sa fécondité, ça change votre horizon temporel. C'est-à-dire que les femmes peuvent se projeter dans un avenir beaucoup plus long. Mais là, maîtrise de la fécondité, ça veut dire je peux poursuivre des études, je peux me projeter dans une carrière. Donc on change d'horizon temporel.
Et parallèlement à ça, il y a une augmentation du taux de divorce. Et là encore, oui. Ça a eu un impact
Oui, mais alors, en fait, fondamentalement, c'est ce qu'elle dit, c'est surtout la maîtrise de la fécondité. Alors, parce que c'est là qu'on a l'entrée majeure des femmes dans l'enseignement supérieur, qui vont faire des études longues. Elles vont pouvoir se projeter dans des carrières. Et surtout, alors c'est là que je vais vous rejoindre sur le divorce, elles vont avoir une autonomie économique qui change les rapports dans le couple, puisqu'elles peuvent travailler, elles ont une indépendance économique. Et donc ça change aussi la négociation au sein des couples. Donc là encore, grosse révolution.
Alors il y a plusieurs étapes. C'est d'abord la révolution industrielle au début du 19e siècle qui provoque une arrivée massive des Américaines sur le marché du travail. Et une cinquantaine d'années plus tard, la révolution des cols blancs et des emplois de bureau va aussi entraîner une deuxième vague.
Oui, absolument. C'est ce qu'elle décrit. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'elle dit, ce qui a déjà été dit, ça c'est pas particulièrement original, c'est que les femmes ont toujours travaillé. Mais elles étaient invisibles dans leur travail, puisqu'elles étaient dans du non-marchand ou dans des travaux indépendants ou des travaux agricoles, etc. Donc, un travail non comptabilisé. La révolution industrielle, en favorisant le salariat, favorise le salariat des femmes, et donc également leur visibilité. Et effectivement, les transformations économiques font qu'il y a eu des besoins en col blanc et que les femmes ont pu occuper ces postes. Et donc, le mariage bar, pour reprendre ce terme, qui est des années 30, en fait, est un recul par rapport à ce qui se passait immédiatement dans l'après-guerre de 14-18.
Et en même temps, ce que nous dit Claudia Goldin, c'est que de la fin du 19e siècle aux années 1920, ce sont plutôt des femmes jeunes et célibataires qui travaillent.
Oui, c'est ça. Puisqu'il y a cette disparition des femmes mariées avec enfants du marché du travail.
Et alors, qu'est-ce qui caractérise le travail des femmes dans la dernière période qu'elle décrit des années 50 aux années 70? On en a un petit peu parlé.
Ben là, c'est là qu'on a ce tournant de la révolution tranquille, ce qu'elle appelle, donc ce que j'ai dit, la révolution liée aux techniques de contraception. Pour elle, c'est ça vraiment la révolution, la rupture essentielle. Rupture dans les normes sociales, rupture dans les engagements au travail et puis dans l'éducation. Dans son œuvre, en fait, on peut distinguer les trois phases. La période longue, 19e, début du 20e siècle. La période plus courte, la révolution tranquille, les années 60 jusqu'aux années 2000. Et là, elle est arrivée à la dernière phase. Donc, dans un article qui est paru très récemment, en 2014, donc relativement récemment, qui a suscité beaucoup de débats, parce qu'elle aboutissait à un résultat, mais qui était atteint par à peu près, sur lequel il y a accord à peu près tous les économistes du travail, c'est que, pour expliquer les inégalités sur le marché du travail entre les femmes et les hommes, on avait avant deux instruments, c'était différence d'éducation, différence de participation, interruption de carrière, etc. Ces deux facteurs sont devenus quasiment identiques pour les femmes et pour les hommes. Il y a encore des petites différences, mais c'est du second ordre par rapport aux années 50, 60, où là, on avait des différences massives qui expliquaient des différences de salaire énormes.
Donc ça ne permet plus d'expliquer les discriminations en termes de salaire.
On ne peut plus expliquer les inégalités, pas discrimination, les inégalités en termes de salaire. Et donc, il y avait tout un courant qui disait les politiques à faire, c'est des politiques sur de conciliation, vie familiale, vie professionnelle, etc. Et là, Claudia Goldin, finalement, renverse la table en disant, dans un article qui s'appelle The Last Chapter, le dernier chapitre, en disant, ouais, ça peut pas faire de mal, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe dans l'entreprise, dans l'organisation du travail dans l'entreprise.
Et notamment sur la question des temps partiels. Elle insiste beaucoup là-dessus.
Et donc sur cette question des temps de travail et de la rémunération de ces temps. Et donc, son raisonnement, c'est qu'il y a des demandes de flexibilité horaire, selon vos temps de la vie, en fonction de vos contraintes familiales, mais ça peut être aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et il y a des métiers pour lesquels ce n'est pas un problème, puisque les taux horaires ne vont pas être modifiés selon votre nombre d'heures de travail.
Elle parle par exemple des pharmaciens qui peuvent choisir leurs horaires aux États-Unis.
Absolument. Elle parle des pharmaciens parce que, effectivement, un pharmacien peut en remplacer un autre. Le concept économique qu'elle met en avant, c'est la plus ou moins degré de substituabilité du travail. Donc, si vous pouvez être remplacé, que vous fassiez 15 heures, 20 heures, 30 heures, vous allez gagner plus en fonction du nombre d'heures, mais c'est linéaire.
À l'opposé, le métier d'avocat est un des métiers les plus difficiles pour les femmes.
Absolument. D'ailleurs, toute sa réflexion était partie de l'examen des cohortes de sortantes de grandes écoles qui avaient des trajectoires différentes selon leur spécialité, puisqu'on notait que pour celles qui sortaient de médecine, etc., elles continuaient sur le marché du travail, tandis que celles qui sortaient de la finance ou de droit, ces carrières s'interrompaient et elles faisaient ce qu'on appelait l'opting-out, elles sortaient de leur carrière.
Et alors, pour quelles raisons le métier d'avocat en particulier est l'un des plus difficiles?
C'est parce que c'est cette histoire de substituabilité, c'est-à-dire que vous avez une relation particulière avec votre client, vous ne pouvez pas être remplacé. Vous n'êtes pas quelqu'un de standard et donc l'entreprise va valoriser votre travail en vous payant très cher des heures très longues. Et donc, sa conclusion, qui, je vous dis, fait vraiment débat, qui a suscité énormément de débats, c'est de dire il faut standardiser davantage les emplois.
Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de standardiser davantage, de rendre finalement les tâches substituables d'une certaine façon?
Je pense que ça s'applique bien au cas des États-Unis, où la flexibilité horaire est beaucoup mieux acceptée. Dans d'autres pays, où, notamment la France, où on lie la présence au travail à la carrière, ça peut quand même être négatif. Mais donc là, c'est un truc, mais je trouve que c'est quand même un point intéressant à regarder, d'avoir plus de collaboration dans le travail et plus de substituabilité, d'avoir en fait un travail davantage en équipe.
Et alors un autre apport de Claudia Goldin, c'est ses recherches sur le recrutement des musiciens dans les orchestres.
Oui, ça je voulais en parler, effectivement.
Et c'est là qu'elle démontre l'utilité du CV anonyme. Alors de quelle façon démontre-t-elle?
Donc Claudia Goldin, c'est quelqu'un qui cherche toujours des sources, qui se pose des questions. Et sa question qu'elle s'est posée, c'est pourquoi il y avait si peu de femmes dans les orchestres symphoniques aux États-Unis dans les années 50 et pourquoi ça a progressé énormément dans les années 60-70. Alors il y avait deux hypothèses en compétition. La première, c'est qu'il y avait davantage de musiciennes sur le marché. Elles se formaient, elles se présentaient. La seconde, c'est que les orchestres symphoniques changeaient leur mode de recrutement en utilisant un paravent. Donc le rideau, c'est-à-dire que les auditions se font à l'aveugle et on décide uniquement à l'oreille. Donc c'est en cela que ça ressemble au CV anonyme. Donc ils ont fait, avec Cécile Arouse, ils ont fait une étude économétrique extrêmement poussée en panel, dont la conclusion était que pour les orchestres qui avaient changé de mode de recrutement, ça avait accru le nombre de musiciennes. Donc ça avait eu un impact sur le nombre de musiciennes.
Pour conclure, Dominique Meurs, pourquoi faut-il sans attendre se plonger dans les travaux de Claudia Goldin, selon vous?
Parce qu'elle remue beaucoup d'idées. Ce n'est pas seulement une technicienne, ce n'est pas seulement de l'économétrie, ce n'est pas seulement du travail sur les données. C'est aussi se poser des questions, utiliser énormément d'approches, enrichir l'approche économique et mieux comprendre le monde du travail.
Merci beaucoup Dominique Meurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je renvoie les éditeurs à votre livre « Hommes-femmes, une impossible égalité professionnelle » qui est paru aux éditions...
Point d'interrogation.
Avec un point d'interrogation, bien sûr, paru aux éditions Rue d'Ulm. Un grand merci à vous.